you're listening in the lane. Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Vous écoutez RDY sur la fréquence 107.5 ou sur www.rdwa.fr.
He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland.
Plantule et compagnie. Une émission qui permet de découvrir ou redécouvrir chaque semaine une plante de nos contrées que l'on peut cueillir, manger ou transformer. Bonne écoute. Cette semaine, nous découvrons le hou. Le hou n'est pas juste une décoration de Noël. Ilex aquifolium, du genre Ilex, famille des aquifoliaceae. Le hou est un arbuste au feuillage persistant. Comme le lierre, il est vert toute l'année. Généralement, on le trouve haut de 4 à 6 mètres, mais il peut atteindre les 20 mètres et vivre jusqu'à 300 ans. Sa croissance est lente. Il a l'aspect d'un buisson conique ou arrondi. L'écorce du hou, dans sa jeune vie, est jaune verdâtre, puis elle devient gris jaunâtre et tend vers un teint noirâtre en vieillissant. Avec l'âge, l'écorce se crevasse. Les rameaux, quant à eux, sont lisses et souples. Le bois de hou servait pour construire les pièces blanches des échiquiers. Il est dense et homogène, assez lourd, à grains fins, de couleur blanc nacré, rosé par instant. Les feuilles sont alternes, pétiolées, coriaces, luisantes d'un vert foncé et brillant, garnies à leur bord d'épines longues et fortes. Le limbe ondulé de ses feuilles est long de 5 à 7 cm. Les fleurs de cet arbuste sont petites, blanches, formées de 4 pétales et soutenues par 4 sépales. Axillaires, on les trouve là où tiges et pétioles de la feuille se rencontrent, puisque le hou est dioïque, c'est-à-dire qu'un arbre sera mâle ou femelle et ne pourra être les deux à la fois, l'aspect des fleurs dépend de l'identité sexuelle de l'arbre. Les fleurs des houes mâles sont portées par de courts pédoncules. Leur pistil est discret, peu formé, entouré de 4 étamines, aux anthères chargées. Quant aux fleurs des houes femelles, elles se développent au bout de longs pédoncules, leur pistil protégeant leur ovaire et bombé et les étamines à l'inverse, atrophiées. Elles ne produisent pas de pollen. Pollen et ovaire ont besoin de se rencontrer. La reproduction du hou se fait donc par pollinisation croisée entre arbres mâles et arbres femelles. La plupart du temps, par le biais des abeilles. On dit que le hou présente une hétérophilie. Cette expression, nous l'avons rencontrée dans l'épisode consacré au lierre commun. L'hétérophilie d'une plante, c'est sa disposition à présenter simultanément des feuilles aux formes différentes. Cela veut dire que les feuilles du hou, que l'on connaît bien pour les voir représentées de toutes parts pendant les périodes de Noël, ne sont pas les seules que porte l'arbre. Ces feuilles ondulées aux bords épineux se trouvent généralement sur les branches basses et les jeunes pousses. Mais au niveau de la cime, ce sont d'autres feuilles que nous apercevons, moins agressives, plus lisses, aux bords entiers. Certains disent que l'hétérophilie serait la marque d'une adaptation permettant de lutter contre les herbivores. Les petits fruits, les drupes, sont persistantes tout l'hiver. Rouges, sphériques et luisantes, assez charnues, renfermant 4 graines cannelées. L'on récolte les feuilles de hou pendant la floraison, c'est-à-dire au mois de juin. Les fruits, quant à eux, sont toxiques. Il ne faut pas les consommer. Plusieurs oiseaux en raffolent pendant l'hiver, quand la nourriture manque. C'est le cas, par exemple, du merle noir, des grives ou du pigeon ramier.
Oui ! Qu'est-ce qui m'a piqué par là ? Oh ! Mais c'est encore ce vieux hou !
Lors de mes recherches, je suis tombée sur un article détaillant le caractère dioïque de cette plante. j'ai lu et compris que des inégalités persistent entre houx mâles et houx femelles. En effet, la plante mâle qui ne fait que produire du pollen dépense beaucoup moins d'énergie que la plante femelle qui va mener à bien sa fructification et va continuer son travail jusqu'à la fin de l'hiver. Dans cet article, dont je vous mets le nom dans la bibliographie sur le site de la radio, l'auteur met en lumière les différences physiologiques entre les deux sexes et leurs conséquences possibles sur la répartition du houx et sa capacité à s'adapter au changement climatique. Il existe, je cite, « un véritable dimorphisme sexuel au niveau physiologique. Si on place des houx sous un double stress, pleine lumière et eau limitée, on constate que les mâles retiennent mieux l'eau qu'ils pompent dans le sol et la gèrent mieux, en agissant notamment sur les stomates des feuilles qui régulent l'évaporation de l'eau. Les houx mâles réussissent donc mieux dans des sites moins favorables, plus limites, alors que les femelles tendent à se cantonner dans des sites humides. Cette ségrégation se fait au moment des germinations et du développement des plantules. Si on analyse les cernes de croissance sur une période de 30 ans, on découvre que le taux de croissance des mâles est toujours supérieur à celui des femelles. Leurs cernes sont plus épais chaque année. Cette différence tient au fait que les femelles allouent une plus grande part des ressources qu'elles fabriquent, via la photosynthèse, en direction de la reproduction et investissent moins dans le maintien. Pourtant, l'efficacité photosynthétique des feuilles des branches de femelles non porteuses de fruits reste supérieure à celle des feuilles des branches des mâles. Les femelles investissent jusqu'à 8 fois plus de biomasse, de matière vivante fabriquée, au niveau d'une branche, vers la production de fleurs et de fruits, que les mâles pour les seules fleurs. Cette différence majeure impose sélectivement aux femelles un mode de fonctionnement différent. Leurs solutions sont de plusieurs ordres. Dans une population donnée, elles tendent à produire moins de rejets et moins de rameaux, d'où l'impression qu'elles sont moins représentées. Elles utilisent plus efficacement les basses lumières pour produire des matières carbonées qu'elles investissent plus massivement dans la reproduction. Elles peuvent différer les effets négatifs d'une mauvaise période, en cas de stress, de sécheresse par exemple, sur les années suivantes. Les fruits verts, dans leur jeune âge, peuvent réaliser la photosynthèse et participer ainsi un peu à leur propre maturation et développement. On voit donc ainsi se dessiner une subtile mais réelle différenciation des deux sexes qui va se traduire sur le terrain par une écologie et une répartition spatiale différentes. Ce partage évite peut-être la compétition entre les deux sexes, mais peut aussi, en situation difficile, notamment dans un contexte de changement climatique, aboutir à des distorsions où l'un des deux sexes va se trouver plus en difficulté. Autrement dit, la duoétie, la séparation des sexes, n'est pas une panacée universelle. Elle est apparue à de nombreuses reprises, de manière indépendante, dans des lignées de plantes à fleurs, mais ce n'est pas non plus généralisé. Les plantes à fleurs restent foncièrement hermaphrodites. Pour moi, le houx était une seule et même plante, et je n'envisageais pas jusqu'à maintenant que la sexualité, lorsqu'une plante est dioïque, ait un impact si crucial sur la vie des individus mâles et femelles, au point de s'adapter différemment et de puiser leurs forces inégalement pour faire face aux évolutions et changements brutaux. Le houx aime s'installer sur des sols plutôt acides, bien qu'il supporte des sols variés aux différentes compositions chimiques. On dit qu'il est une plante sciaphile, qu'il apprécie donc l'ombre, les sous-bois. Un individu isolé et implanté déjà depuis un petit temps peut survivre à une exposition à la lumière plus constante, mais c'est plus rare. Ce qui est important également pour sa croissance, c'est l'humidité atmosphérique. Le houx aime les lieux humides, c'est pour ça qu'on le trouve fréquemment en zone océanique. Sur le site Zoom Nature, l'auteur l'explique ainsi. Cette exigence d'humidité a de quoi surprendre quand on voit le feuillage coriace, épineux, persistant qui rappelle celui de nombre d'arbustes méditerranéens adaptés à la sécheresse, comme le chêne kermès par exemple. Pour comprendre cette contradiction apparente, il faut remonter dans le temps et explorer l'histoire du genre Ilex, seul représentant dans sa famille les aquifoliaciers. Ce genre, subcosmopolite, compte près de 600 espèces, surtout réparties en Amérique tropicale, 300 espèces, ou en Asie du Sud-Est, 250 espèces. Pour le reste, on trouve 30 espèces en Amérique du Nord, seulement 4 persistent en Europe. Le hou commun, le hou de la mer Noire, Ilex colchica, et deux espèces endémiques des îles Macaronésie, Ilex perado et Ilex canariensis. Ce genre a connu une période de diversification majeure entre la fin du Crétacé, fin du secondaire, et la première moitié du tertiaire, avec une apogée au Miocène, il y a bien plus de 5 millions d'années. Tous les houes actuels partagent un ancêtre commun qui date de cette dernière époque. Ils font partie d'un assemblage de plantes qui occupaient majoritairement l'hémisphère nord, sous un climat bien plus chaud, proche du climat tropical humide. On parle de flore arco-tertiaire. On connaît ainsi des fossiles de houes en Alaska ou en Islande. À la fin de l'ère tertiaire, avec la nette dégradation climatique des refroidissements, annonciateur des glaciations quaternaires, le genre a été décimé, mais certaines espèces ont trouvé refuge, soit sur des îles atlantiques, comme aux Canaries, à Madère ou aux Açores, soit pour notre houe sur le continent, mais sous un climat présentant une affinité avec ses anciennes origines. En France aujourd'hui, on trouve du houe jusqu'à l'étage subalpin, à peu près jusqu'à 1500 mètres d'altitude, dans les sous-bois, souvent peuplés de chênes. Comme chaque plante, le houe s'adapte à son environnement, mais il semblerait que bien qu'il trouve des solutions pour pallier au manque d'eau, par exemple, en préférant améliorer la circulation de sa sève brute dans ses vaisseaux, il va négliger sa croissance et va avoir du mal à se faire sa place dans les sous-bois. Cet exemple montre comme il est compliqué d'étudier l'impact du changement climatique sur le houe.
Compliqué d'étudier l'impact du changement climatique sur le houe ?
Non.
Bon, je sais pas.
Pollution
phréatique.
Oh, c'est compliqué.
Bon,
sécheresse. Pour cette histoire-là de changement climatique, d'adaptation, tout ça. Bon, ce que je voulais dire en général, c'est que le houe, bah, il va avoir du mal, comme beaucoup, beaucoup d'autres plantes. Et si on veut un peu l'aider et aider les autres, il faudrait qu'on commence à se préoccuper de leur sort. Et pour ça, il faudrait qu'on commence à se préoccuper de qui ils sont, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils aiment.
Je veux pas vous déprimer moi non plus hein, avec toutes ces histoires.
Vous voyez où je voulais en venir ?
Comme chaque plante, le houe s'adapte à son environnement.
Il faudrait tout arrêter. Mais t'imagines ?
Mais
vivre
mais
sans voiture.
Il existe une espèce sur cette planète qui aime détruire tout ce qui l'entoure.
Sans robots électroniques, sans télé,
sans
vaccin contre le Covid, sans courgettes en hiver.
Il est compliqué d'étudier l'impact du changement climatique sur le houe et sur les autres plantes, tant les facteurs sont nombreux et dépendent les uns des autres. Une chose est sûre, si nous voulons avoir la chance de côtoyer le houe et les autres, il faut au moins les regarder, les respecter et peut-être trouver de petites solutions pour les aider.
T'écrivais des mots doux. Tu disais des mots tendres au premier rendez-vous. Je me suis laissé prendre. Tu me donnais du houe.
Le houe est une plante magique qui est présente dans de nombreuses légendes, au cœur de nombreuses cultures, et ce, depuis bien longtemps. Tiens, en parlant de cœur, être au cœur de nombreuses légendes, il est dit que le hou, porteur de baies rouges vives, sait ouvrir le cœur de ceux qui souffrent. Il le rend plus souple et chaud. La toxicité de la plante réfrène son usage médicinal, mais elle est utilisée en élixir floral dans la pharmacie magique du docteur Edward Bach. Il la dédie à ceux qui sont parfois assaillis par des pensées négatives telles que la jalousie, l'envie, la vengeance, la suspicion, le manque de confiance et le penchant à la comparaison avec autrui. Les fleurs de houx tendent à apaiser les réactions négatives excessives. Elles calment et insufflent l'amour. Porteur de lumière, du divin, il est la lumière de l'amour au cœur des lieux obscurs. Ainsi, il redonne vie aux espaces glauques. L'immortalité, le cœur, la vie au cœur de l'apparente mort hivernale. Au-dessus de la porte, on l'installe pour honorer les esprits de la forêt, protéger des mauvais sorts, porter chance aux amoureux, etc. Protecteur, il est un paratonnerre comme l'aubépine et éloigne la foudre lorsqu'elle frappe la terre. Il porte chance et imprègne les rêves de magie. Pour réveiller la magie des rêves, voici un rituel que vous pouvez réaliser.
Un vendredi soir,
après minuit,
une nuit de pleine lune. Préférablement une nuit de pleine lune.
Seul, sans faire de bruit.
Et sans faire de bruit. Allez cueillir neuf feuilles de houx en gardant le silence le plus complet.
Remerciez
la plante dans votre tête pour son cadeau. Puis dans un morceau de coton blanc, enveloppez soigneusement les feuilles en disant: Cernunnos, toi qui veilles dans le creux des forêts,
montre-moi l'avenir.
Fais que mon rêve se réalise.
Ouvre-moi
la porte des songes afin que je sache ce qui m'attend.
Tout de suite après, placez ce morceau de coton sous votre oreiller.
Placez ce morceau de coton sous votre oreiller.
Cette nuit se réaliseront.
Les rêves que vous ferez au cours de cette nuit se réaliseront rapidement.
Dans l'ouvrage,
les arbres guérisseurs, leurs symboles, leurs propriétés et leurs bienfaits.
L'autrice
Sylvie Verbois
a écrit ce que nous dirait le hou si nous pouvions l'entendre.
Je suis le bois franc, tel est mon nom. J'apporte la prospérité et le bonheur, vous n'avez rien à craindre de moi. Le piquant de mes feuilles est là pour protéger. J'éloigne ainsi les ruminations, les pensées obsessionnelles. Je détourne votre esprit des idées fixes et des impatiences, des orages émotifs et des fascinations dommageables. J'adoucis votre cœur durci par la peur de ne pas être aimé comme vous le désirez. J'écarte vos craintes illusoires, vos égarements, vos aveuglements. Je transforme votre regard porté sur votre existence et vous incite à penser avec le cœur, à éprouver un sentiment désintéressé, à vous donner sans arrière-pensée et à accepter de recevoir ce que la vie vous offre.
Ce message est apaisant, n'est-ce pas? Enfin, du moins, si vous êtes sensible au message des plantes. Quelques propriétés médicinales. On le sait, toutes ces espèces de boules rouges super luisantes, c'est un peu chelou. Si on en mange une, même deux, 3 ou 5, ça va. On va pas en crever. Par contre, si on persévère, là, on risque d'avoir des soucis. Vomissements, gastro-entérite sévère, déshydratation conduisant à un malaise soudain et intense, voire à des troubles neurologiques conduisant à la mort. Mais bon, c'est très rare. Le caractère émétique des drupes de houx, qui nous fait vomir très tôt, nous empêchera vite de continuer à en manger. Il paraît par contre que les jeunes pousses sont agréables en omelette ou en salade. J'ai l'impression que c'est la seule image que nous avons gardée du hou, une plante toxique qui n'a pas plus d'intérêt qu'une plante ornementale. Pourtant, dans le passé, on lui attribuait pas mal de vertus. On l'a pensé stomachique, fébrifuge, sudorifique, tonique. On l'utilisait pour soigner la goutte, la pleurésie, la pneumonie. Sous forme de cataplasme de feuilles fraîches broyées, le hou est résolutif, il calme les inflammations. Par voie interne, en décoction ou macérée dans du vin, les feuilles sont diurétiques, fébrifuges, expectorantes. D'une certaine manière, il peut remplacer le thé. Dans certaines régions allemandes, il était d'ailleurs coutume de le consommer ainsi, en infusion. Et il faut rappeler que son proche cousin, Ilex paraguariensis, est le membre du genre Ilex à l'origine du maté sud-américain. Ses feuilles sont torréfiées, pulvérisées et infusées pour leurs propriétés toniques et la caféine qui y sommeille. La glu, extraite de l'écorce, mélangée à de l'huile de noix, servait de pommade contre les œdèmes, les abcès et les tumeurs. Bon, je vous ai déjà parlé de l'élixir floral du hou, qui réharmonise les émotions. Comme pour chaque plante que je vous ai présentée jusqu'à maintenant, il y a des tas et des tas d'informations à leur sujet qui sont très intéressantes et je vous conseille d'aller chercher ce que vous voulez approfondir. Et puis, je vous conseille surtout d'aller en forêt, d'aller rencontrer le hou et les autres et de les intégrer à votre imaginaire. Après tout, ils sont autour de nous, ils ont peut-être des choses à nous communiquer et nous, peut-être des choses à apprendre.
Mes amis, on se retrouve prochainement pour une petite émission Plantule et compagnie. Surtout, n'hésitez pas à aller faire des petits tours en forêt. Et surtout, si vous croisez quelques branches de hou, n'hésitez pas à venir faire un tour dans ma demeure. Vous connaissez l'adresse. Dans le creux du grand chêne, près de la rivière. Grattez 3 fois la porte et je vous ouvrirai. À bientôt! Later on, we'll conspire as we dream. By the fire, to face unafraid the plans that we made, walking.